Radio Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Le porte-parole de FARDC à Beni rassure, il n'y a aucune tenue de forces engagées sur les lignes de front qui a été piratée. Le capitaine Anthony Moloshaï réagit ainsi aux alertes de la société civile ainsi que du conseil urbain de la jeunesse au lendemain de la saisie d'un colis avec des effets militaires. Et puis la réunion avec les membres du comité de suivi de la structure des prix des produits pétroliers à Lubumbashi est prévue pour le mardi prochain. Ainsi l'a annoncé le ministre de l'économie nationale. L'objectif est de décanter la situation de la desserte en produits pétroliers qui se dégrade dans les pays. Enfin, à l'université de Mbujimayi, le test d'évaluation pour accueillir les étudiants en médecine dont les facultés ont été fermées s'est clôturé mercredi dernier. Pour en parler, nous recevrons dans cette édition le professeur abérecteur Apollinaire Tibakati Kongo. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Aucune tenue des forces armées engagées sur les lignes de front n'a été piratée. Déclaration du porte-parole des opérations Sokola 1 dans la région de Beni. Il réagissait ainsi aux alertes de la société civile ainsi que du conseil urbain de la jeunesse après qu'un colis avec des effets militaires a été saisi à Butembo puis amené à Beni par les services de renseignement. Le capitaine Anthony Moloshaï indique que le propriétaire de ces colis est entre les mains des forces de l'ordre. Il s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Ce ne sont pas d'abord des tenues de l'armée ougandaise comme on parle beaucoup de gens. Ce sont des faits militaires bien sûr, mais achetés par les individus. Pour quelle fin, on ne sait pas. D'abord, c'est le responsable même du service de renseignement qui est parti sur le terrain pour vérifier. On a d'abord interpellé le propriétaire, c'est lui qui a amené ses petits colis à Butembo et il est directement ici à Beni en train d'être auditionné pour savoir les motivations, l'intention qu'il avait poussé à faire ça. Ça n'a rien à voir avec les opérations en cours. Ne cherchons pas à stigmatiser les choses, ne cherchons pas à voir toujours le mal partout. Je sais que la société civile ou les comités urbains de la jeunesse, c'est déjà la réalité sur le terrain et a déjà quand même dans le passé des mauvais souvenirs dans ce sens. C'est tout à fait normal qu'on lance des alertes dans ce sens, mais il est très tôt de confirmer qu'il s'agit des tenues de tel pays ou tel pays.
On reste dans la région de Beni. Le regroupement de la jeunesse de la commune Bungulu dans la ville de Beni opte pour l'opération dite Chunguza Shirani, entendez par là surveiller son voisin. Elle estime que la mesure de couvre-feu en cours a démontré ses limites. Pour cette structure de la jeunesse, plusieurs cas d'insécurité caractérisés par les vols en main armée sont enregistrés dans plusieurs quartiers de la ville pendant ces heures de couvre-feu. Ainsi, elle demande aux autorités de changer les stratégies pour pallier à la question de l'insécurité dans la ville. Calvin Maliro, président de la jeunesse dans la commune de Bungulu, en explique au micro de Marc Marofimbo.
On décrète cette mesure alors que les bandits sont en train d'opérer pendant les heures de circulation. Nous pensons que cette mesure est vraiment inefficace et ça a prouvé ses limites. Mais les autorités doivent chercher à demander à d'autres pays qui sont victimes de ces phénomènes. Il n'y a pas que la RDC où il y a les phénomènes terroristes. Et donc, au-delà de ça, les heures auxquelles on nous demande de rester à la maison, après ces heures, il y a des mouvements suspects. Et on est en train d'appeler les services de sécurité. On se rend compte que même ceux qui sont censés nous venir en aide, ils n'arrivent pas à décrocher les appels de la population. Alors, on s'est dit, il est alors temps, les autorités puisse lever cette mesure et cela nous permettra, nous en tant que population, de s'approprier l'opération Chunguza Jirani qui a été appuyée par l'autorité urbaine. Et on ne peut pas surveiller le voisin quand on est dans sa chambre. On le surveille quand on est en train de circuler pour fournir des informations à temps utile aux autorités et à leur tour, ils doivent se mettre au travail.
Pendant ces temps, la société civile de Lubero alerte l'armée sur le plan d'occupation des groupes armés dans plusieurs localités de la partie sud de ce territoire. Georges Kationgo, président de cette structure citoyenne, affirme que les milices NDC rénovées de Guidon et FPPAP de Cabido se disputent le contrôle des entités non seulement dans les territoires de Walikale, mais aussi dans le sud de Lubero, Florida Kambu.
La milice FPPAP de Cabido règne en maître dans la localité d'Emboavi
Vignoy, où elle a érigé son quartier général depuis plusieurs mois. D'après des sources de la société civile dans la région, ces miliciens ont instauré des taxes mensuelles imposées à tout habitant en âge adulte. Ils se sont également investis dans l'exploitation des bois et soumettent la population à plusieurs autres types de tracasseries, rapporte la même source. Georges Katsongo, président de la société civile territoriale, affirme que les habitants des localités occupées par les FPP-AP de Cabido et les NDC rénovés de Guidon vivent le calvaire qui leur sont imposés par des éléments de ces deux groupes armés dont la rivalité serait due à des avantages économiques liés à l'occupation des différentes localités. Georges Katsongo appelle ainsi à une intervention de l'armée en vue de protéger la population de la région qui en a trop souffert. Contacté, le commandant des opérations Sokola 1, Axe Sud, le général Grégoire Manzikala, qui revient d'une mission dans la zone, assure que des dispositions sont en étude à ce sujet. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Et puis en Ituri, l'armée a délogé hier les rebelles de la Codeco du village Kipira à 17 km du centre commercial de Djalassiga. Pris de panique, certains habitants préfèrent quitter la zone. Tout en saluant l'intervention de l'armée, la société civile locale invite cependant les FRDC à demeurer vigilantes. Les détails avec Clarisse Zindula.
Les combats ont commencé tôt jeudi matin alors que les rebelles de la Codeco avaient déjà encerclé la localité de Kipira dans le groupement de Angal 2. Selon la société civile du territoire de Mahagi, l'arrivée des FRDC a mis en débandade ces miliciens qui ont pris fuite et abandonné leur position. Cette situation a créé une panique générale parmi les populations. Certains habitants ont commencé à vider ce groupement, un mouvement qui semblait s'intensifier ce vendredi matin. Selon le président de la société civile locale, ces rebelles de la Codeco visaient le centre commercial de Djalassiga ainsi que les carrés miniers présents dans cette zone. Innocent Wabikudo demande aux autorités de renforcer la présence des FRDC dans cette zone. On l'écoute.
Les trous d'or deviennent la cible des éléments de la milice Codeco. Et cette fois-là, nous avons la peur que l'insécurité quitte le groupement d'Angal 2 pour maintenant avancer jusqu'à la chefferie des Alou Djouganda. Et là, on voit déjà le chef-lieu de Djalassiga comme la cible. Qu'une disposition sécuritaire rassurante soit prise. Et le renforcement en effectif militaire.
Signalons que selon les sources de sécurité, le bilan provisoire de ces affrontements fait état d'un civil tué et de deux blessés, dont un militaire FRDC. Nous n'avons pas encore eu la réaction de l'armée par rapport à ces combats. Bounia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'inspecteur général de la police nationale congolaise en charge de contrôle, audit, enquête et évaluation est en mission d'inspection au Sud Kivu. Le général Juvenal Bideko Murabazi a, au cours d'un point de presse avec les médias locaux, indiqué qu'il a pris une série de mesures à l'endroit des officiers qui empiètent les principes de commandement légalement établis au sein de la police nationale congolaise en RDC. On écoute le général Juvenal Bideko Murabazi dans ses propos recueillis par Jean Kassan.
En fait, je suis venu pour le contrôle, l'audit, l'enquête et l'évaluation dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. J'ai terminé déjà le contrôle ici et j'ai pris des mesures que je devrais prendre à l'égard des commandants qu'on a vu qui ne respectent pas le principe de commandement. Mais je me suis rendu compte que l'IG, l'inspection générale, n'est pas vulgarisée, n'est pas connue de la population. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis dit, il faudra que je puisse faire appel au chevalier de la plume pour nous aider à vulgariser cette structure. Et je suis confiant qu'ils vont faire les relais et à travers eux, la population va comprendre qu'il y a une structure qui va les aider à résoudre leurs problèmes sécuritaires qu'ils trouvent au quotidien et se rendre compte qu'ils ne sont pas abandonnés, mais il y a une structure au-dessus qui peut les aider à trouver des solutions.
Peut-être une lueur d'espoir pour les automobilistes de Lubumbashi. Le ministre de l'économie nationale l'a convoqué pour mardi prochain une réunion avec les membres du comité de suivi de la structure des prix des produits pétroliers. Objectif visé, décanter la situation de la desserte en produits pétroliers qui se dégrade du jour au lendemain dans plusieurs villes du pays. Le détail avec Jean Ngandou.
La situation ne s'améliore guère devant les stations-service de Lubumbashi. À plusieurs endroits, les files des véhicules s'allongent. L'impatience et l'anxiété des automobilistes qui attendent en vain d'être servis montent. Ce vendredi, par exemple, certaines grandes stations-service ont fermé les portes peu avant 16 heures, obligeant d'autres automobilistes à s'approvisionner auprès des revendeurs communément appelés Kadhafi. Là, un litre d'essence est négocié à 3000 francs congolais, voire plus. Faisant suite à la demande d'audience formulée par la Fédération des entreprises du Congo, groupement du Haut-Katanga, auprès du Premier ministre pour parler des difficultés du secteur pétrolier dans la zone sud, le ministre de l'économie nationale convoque pour le mardi prochain une réunion avec le banc pétrolier. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir révision de la structure des prix des produits pétroliers dans les trois zones d'approvisionnement. Si une lueur d'espoir se pointe à l'horizon, en entendant les retombées de la réunion du mardi prochain, la situation sur le terrain risque de s'aggraver car plusieurs pétroliers font de la rétention des stocks. Ils ne veulent pas écouler tous leurs produits au prix de 2100 francs congolais le litre, quand ils savent que dans quelques jours, les prix pourront changer. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa pour parler santé. En effet, la campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans la ville. Sur le site de vaccination ouvert depuis novembre 2021 à la place des évolués dans la commune de la Gombe que nous avons visité ce vendredi, près de 5000 personnes ont déjà reçu leur première dose de vaccin selon les dires du responsable du site. C'est un reportage de Jean-Francis Mouya.
Sur place, nous avons trouvé une quinzaine de personnes venues se faire vacciner. Docteur Jean-Claude Massoumou, son coordonnateur, nous fait savoir que l'opération de vaccination évolue positivement. Il revient sur quelques modalités à respecter pour recevoir le vaccin.
On est à plus de 5000 personnes vaccinées. Du jour au jour, on a un plus grand nombre de personnes. Nous avons Moderna, nous avons Pfizer et Johnson & Johnson que nous donnons aux gens qui sont éligibles. L'éligibilité des gens, c'est au niveau des médecins qui vont voir si vous n'avez pas d'antécédents morbides ou si vous n'êtes pas malade ou vous n'avez pas fait récemment COVID parce qu'il y a un délai pour vacciner.
Papa Mbuta Sango est lui aussi venu se faire vacciner après plusieurs hésitations. Il tenait à évaluer les effets sur les autres. Sa conclusion, le vaccin contre la COVID-19 n'est pas préjudiciable à la santé. La maladie existe. J'ai décidé de me faire vacciner puisque le vaccin n'a rien de nuisible. Jeanne Bibi, réceptionniste de ce site, affirme que chacun a le droit de choisir le vaccin qui lui convient sur les trois dont le site dispose. Après consultation auprès du médecin, chacun est libre de choisir le vaccin qui lui convient. Rappelons que le vaccin est gratuit.
Et puis cette bonne nouvelle au Kassai-Oriental, la province vient d'affecter cette semaine plus de 200 nouveaux médecins dans les hôpitaux généraux et dans les centres de santé de référence. Ces médecins qui étaient autrefois regroupés dans un collectif dénommé médecins non affectés sont ceux ayant terminé les études sans exercer depuis 8 ans pour certains et 3 à 4 ans pour d'autres. Toutes ces nouvelles recrues à la division provinciale de la santé se réjouissent et remercient les autorités provinciales pour cette décision externe d'Alafina.
Tous les hôpitaux généraux de référence ainsi que les centres de santé vont bientôt accueillir les nouveaux médecins récemment affectés par l'autorité provinciale. Ils retirent depuis ce vendredi leur notification à la fonction publique qui seront présentés à la division provinciale de la santé avant leur descente sur le lieu d'affectation. Pour ces jeunes médecins, leur rêve est devenu une réalité. Ils remercient les autorités provinciales.
Pour ma coup de chapeau particulièrement à notre gouverneur, nous remercions aussi la radio Capi qui nous a et tous les héros dans l'ombre.
Nous remercions notre héroïne, Madame le gouverneur ad intérim, pour son sens d'écoute et son esprit de responsabilité. Remercions aussi l'organe délibérant.
Pour la division provinciale de la santé, ces affectations soulagent les besoins en couverture sanitaire au Kassai oriental. Docteur Bonheur Chitekou souhaite que les autorités s'investissent actuellement dans la construction des infrastructures sanitaires pour améliorer les conditions de travail. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, après la démonstration de force, la junte s'active sur le front diplomatique. Vendredi, les Maliens ont répondu massivement à l'appel de la junte à manifester contre les sanctions imposées au Mali par la CEDEAO. La mobilisation a été forte à Bamako et à l'intérieur du pays. Malgré cette démonstration de force, le dialogue n'est pas rompu. La junte va continuer à dialoguer avec les institutions sous-régionales et des pays de la sous-région pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali.
L'invité.
À l'université de Mbujimayi, le test d'évaluation pour accueillir les étudiants en médecine, dont les facultés ont été fermées, s'est clôturé mercredi dernier. Au moins 1300 étudiants pourraient être reçus au cours de cette année académique. Pour en parler, nous recevons dans cette édition le professeur abérecteur Apollinaire Tshibakati Kongo. Il s'entretient ici avec Esther Ndalafina. Suivez.
Bonjour professeur abbé Apollinaire Tshibakati Kongo. C'est ce mercredi que se clôturent les tests d'évaluation pour les étudiants des facultés de médecine supprimées à Mbujimayi, à Kabinda et à Mweneditu. Sur quoi porte ce test d'évaluation?
Bonjour madame, et effectivement aujourd'hui on clôture la série de 3 jours de concours d'admission de ressortissants de facultés de médecine fermées et déversées chez nous. Ça fait 7 promotions, il y a eu donc 5 matières, chaque promotion a eu 4 matières de médecine, donc 2 le premier jour, 2 le deuxième jour et le dernier jour c'est le test de français. Ces examens ont eu lieu à Mbujimayi, à Kabinda et à Mweneditu.
Au total, combien d'étudiants seront accueillis à l'université officielle de Mbujimayi?
Bon, au total, nous attendons de l'université de Mweneditu, de l'université de Kabinda et de l'UPCC, 1300 nouveaux étudiants qui vont entrer dans notre unité de médecine. Voilà donc ce que nous attendons. Mais il y a aussi des étudiants, disons parmi eux, il y a des étudiants qui faisaient de santé publique. En fait, là où santé publique était un département de faculté de médecine, ils le sont automatiquement déversés chez nous.
Les étudiants concernés par ce test résident à Mbujimayi, à Kabinda et à Mweneditu. Quelles sont les dispositions prises par l'IOM pour permettre à ces étudiants de passer ce test?
Les examens ont été organisés dans 3 sites, à Mbujimayi, notamment pour les étudiants de la faculté de médecine de l'UPCC, mais aussi des étudiants de Kabinda ou de Mweneditu qui étaient déjà présents sur la ville de Mbujimayi. Il y a aussi des étudiants qui viennent d'ailleurs donc en promotion de recrutement de médecine. Notre souci a été de diminuer le coût de déplacement des étudiants, de leur rapprocher le concours auprès d'eux. Nous avons donc envoyé des équipes à Kabinda et à Mweneditu et une équipe est sur place en Mbujimayi où tout s'est bien déroulé. Aujourd'hui, c'est la conclusion.
Quel est le sort réservé à ceux qui ne vont pas satisfaire au test? Seront-ils admis ou rejetés? Et quelle est la prochaine étape de cette opération?
La gestion de ce concours est confiée à une équipe technique, donc des jurys qui vont statuer, qui vont délibérer, et nous suivrons leurs recommandations. En principe, tous les candidats sont supposés avoir une très bonne formation, ils seront donc accueillis. Ceux qui ne vont pas satisfaire, ils seront accueillis, mais ils seront obligés de reprendre les années parce que c'est un test d'admission. Donc personne ne sera renvoyé ou on est admis dans la promotion supérieure ou on reprend la promotion dans laquelle on a été. Donc si on n'a pas satisfait aux matières de base qui sont confiées aux uns aux autres.
Quelle est la capacité d'accueil de l'IOM? Avez-vous des infrastructures adéquates pour vos anciens et les nouveaux étudiants?
Bon, l'accueil de ces étudiants est un défi qui est lancé à nos institutions. Mais il y a d'abord le premier facteur, c'est le facteur en termes de ressources humaines. Donc, ces facultés sont déversées chez nous, mais aussi avec leur personnel, le personnel académique, le personnel scientifique. Ce qui fait que notre équipe académique et scientifique est renforcée. Donc, nous accueillons des facultés avec du personnel qui arrive. Il y a la question des infrastructures qui se pose. Nous l'avons déjà en partie résolu en prenant plusieurs salles sur la ville. L'université loue plusieurs salles sur la ville qui vont lui permettre, dans les environs de l'université, de pouvoir organiser des enseignements dans les meilleures conditions. Donc nous avons donc cette capacité-là. Donc notre université a pour le moment 48 auditoires disponibles qui vont nous permettre d'organiser les différents enseignements. Et voilà donc les mesures pratiques qui ont été prises.
Merci beaucoup, professeur Abbé, recteur Apollinaire Tshibaka.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.